Rachel Yacard, vous connaissiez cet enregistrement, je crois pas, hein, cet enregistrement de Kerayan.
Je vais vous faire un aveu, j'entends presque jamais de disques d'opéra.
C'est horrible, je devrais pas le dire.
Mais Stéphane Goldé a une question à vous poser.
Oui,
je vous en prie.
Oui, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée, notamment parce que je n'étais pas d'accord et que nous sommes quand même les deux seuls représentants du sexe féminin à cette table.
Deux, c'est assez pour
Cosy. Vous avez parlé du malaise qu'on a en tant qu'interprète à être sur scène dans cette affaire de Cosy. Voilà un air qui est complètement non-ambivalent. On est tout à fait dans l'univers, je dirais, conventionnel, au sens strict du terme. L'air exprime quelque chose, je resterai immobile.
C'est de l'Anna dans Don Juan.
C'est un air qui est le contraire de l'ambivalence de Cosy. Vous vous sentez bien quand vous chantez ce genre d'air, alors ?
Ben, oui, parce que quand je chante cet air, je ne pense vraiment qu'aux mots que je dis. Je ne pense pas à la situation.
Alors moi, je vais dire, en tant qu'auditeur, je trouve cet air un tout petit peu, alors qu'on ne me prenne pas mal, un tout petit peu ennuyeux par rapport à la patte dramatique de Cosy.
C'est un air de technique pure. Et oui, c'est un air, un des plus extraordinaires sur ce plan que Mozart a écrit. Ça, il faut quand même le dire.
Et ce qui pourrait donner une idée véritablement, enfin, d'ennui peut-être, de choses conventionnelles, en effet, c'est que c'est une espèce d'air de reine. C'est une fille, enfin, qui a 17 ans ou 18 ans. Tout d'un coup, elle chante, exactement, c'est l'opéra Seria.
Absolument.
Elle arrive au devant de la scène et elle s'impose. C'est Andromaque, exactement.
Musicalement, c'est tout à fait vrai. Et je pense qu'effectivement, une cantatrice peut le ressentir comme cela. Mais je crois qu'il est tout à fait nécessaire à ce moment-là de l'action. Ça dépend de ce que l'on entend par le titre, Così fan tutte. Alors là, je crois qu'il y a toujours la multiplicité des plans chez Mozart qui est si fascinante. Il y a certainement, grosso modo, comme elles font toutes, bon, les femmes sont infidèles par nature, etc. C'est une autre manière de chanter un air de Verdi très célèbre quelques décennies après. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre acception possible ? À savoir, grosso modo, l'humanité est divisée entre hommes et en femmes, de sexes tout à fait irréconciliables et distincts, opposés. Et grosso modo, les hommes, c'est la culture et la femme, c'est la nature. Les hommes sont embrigadés dans des réseaux de relations sociales, de conventions, de mariages avec des filles jeunes, si possible vierges. Une fois que le serment des fiancés a été donné, on n'en sort plus. On ne peut pas regarder un autre homme. Il y a tout ce côté conventionnel qui est, disons, la traduction dans le réseau amoureux d'une certaine forme de relation des hommes à la culture, à ce qui est fabriqué, ce qui est organisé par la société. Et à côté de cela, il y a les femmes. Et les femmes, elles, eh bien, elles ne jouent pas ce jeu-là. Elles obéissent à la nature. Alors, elles obéissent sur des plans différents. Il y a le plan d'Arabella, qui est une fille coquette, qui se laisse séduire tout de suite, parce que pourquoi pas. Et il y a le plan de Fiordiligi, qui également obéit à sa nature, parce que sa nature est en fait beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus forte, beaucoup plus passionnée, beaucoup plus sincère, même que d'Arabella. Et elle sent très bien que l'appel du désir, la capacité peut-être de rompre justement cette espèce de contrat social du début de la pièce, va s'offrir à elle avec une intensité énorme contre laquelle il va falloir qu'elle barde ses énergies encore plus fort,
elle
comme
va,
un roc.
Et du même coup, elle va jouir d'abord.
Bon. Et
oui, parce que
je voudrais terminer.
Laissons terminer, Dominique. J'aime.
Et je crois que de ce point de vue-là, Così fan tutte, comme elles font toutes, ça veut dire les femmes, elles, ont l'avantage sur les hommes de suivre leur nature, alors que les hommes sont embrigadés dans leur culture. Et je pense que de ce point de vue-là, cette vision de Così, qui est évidemment une vision tout à fait pré-romantique et qui tire
ardemment féministe.
Qui tire Cosy vers le 19e siècle et non pas vers le 18e siècle, donc des instruments d'époque, entre parenthèses, bon, ça tire Cosy vers le 19e siècle, ce qui d'ailleurs est tout à fait, visible dans la musique que l'on entend, car la musique de cette ère-là est une musique quand même tout à fait qui se déroule sur un plan, et notamment le récitatif qui précède, le récitatif accompagné qui précède, on ne me fera pas dire que ce n'est pas une musique pré-romantique, elle l'est complètement. Bon, et je crois que c'est intéressant de voir que cette vision-là, éventuellement, de Così fan tutte, permet d'expliquer pourquoi, non seulement Cosy a été, d'une certaine façon, prémonitoire du 19e siècle, même s'il a été éclipsé en tant qu'opéra au 19e siècle, et permet de comprendre aussi pourquoi on l'a retrouvé au début du 20e siècle, alors que s'est déroulé tout un débat sur l'homme et la femme, avec les guillemets d'usage, qui insiste également sur ce caractère naturel des femmes par rapport au caractère culturel des hommes. Alors là, moi, j'enverrai volontiers à Karl Kraus, qui a écrit beaucoup de choses très belles là-dessus. Et comme par hasard, tout ça se passe un peu à l'époque où on redécouvre Cosy au début du 20e siècle. Alors, et ça, c'est une vision romantique de Cosy, évidemment.
Alors, nous allons justement entendre donc Fiordiligi plus tard, au second acte, résister de plus en plus, jouir, comme le pense Philippe Solers, de cette résistance, ou du moins résister à sa nature, comme le penserait plutôt Dominique Jameux. Alors, après donc l'aria brûlante et tendre de Ferrando Aio Veggio, qui est un morceau de séduction, joyeux et sincère, Fiordaligi se retrouve toute seule, et elle se ressaisit, et à la fois, il faut dire que cette musique traduit un très grand désarroi, enfin, c'est vraiment le combat intérieur, et c'est le célèbre air Per Pietà. Alors c'est toujours donc Elisabeth Schwarzkopf, et Ferrando, dans cette version dirigée par Karajan, était chantée par Léopold Simono.
Della mia debolezza, a qual cimento il barbaro mi puse. Un premio è questo, ben dovuto a mie colpe. In tal istante, dove è il nuovo monte, i sospiri
Elisabeth Schwarzkopf, Fiordaligi dans l'air Per Pietà, précédé de son récitatif, Karajan qui dirigeait. Alors évidemment, c'est sublime, et toute cette version de Karajan, je trouve, a quelque chose de complètement intériorisé. C'est vrai que cette air, elle en fait une sorte de méditation, de temps arrêté. C'est comme un cosy en rêve, ça fait très Richard Strauss, je trouve, souvent. Enfin, c'était la magie de des interprètes de ces années-là. Alors, Rachel Yacar, vous allez devoir maintenant, elle est concentrée voilà. Un petit peu avant de chanter, mais je ne vous demande pas, bien sûr, de juger Elisabeth Schwarzkopf. Mais est-ce que vous avez du personnage de Fiordaligi, cette même conception, quand même très, je dirais pas profonde, mais très méditative, qui est celle de Schwarzkopf?
Je vais quand même dire quelque chose sur Elisabeth Schwarzkopf. C'est qu'elle, elle en fait quelque chose de très intérieur, de très bien chanté, de très profond. Et je trouve là, excusez-moi, je vais me mettre aussi en tant que critique, je trouve que Karajan, en dessous, ne la suit pas. L'accompagnement est superbe, la qualité est splendide, mais il n'y a pas cette tendresse que Schwarzkopf fait passer dans la voix. Moi, je ne le retrouve pas dans l'accompagnement. C'est mon droit, hein.
Alors Philippe Solers, qu'est-ce que vous pensez de Fiordaligi?
Ah ben Fiordaligi est un cas passionnant parce que l'air que vous venez d'entendre, c'est le moment où elle a fui par rapport au désir du serpent. Cette fois-ci, elle a avancé d'un pas, elle a la conscience du péché. Elle est dans le jardin, elle est mordue par le péché. Mais elle va résister encore, hein, elle dit qu'elle va résister. Or c'est la même qui, quelques instants plus tard, va commencer à vaciller, hein, vacillar. Elle vacille, c'est un roc donc qui commence à se casser légèrement la figure. Et le désir de résistance a été si fort que la reddition va être aussi très forte, puisque c'est la même qui va chanter avec la même passion à Ferrando, qui est l'autre, hein, qui n'est pas son amant naturel, eh bien, qui peut faire d'elle ce qu'il veut. Et qui vont tous les deux des diletto sospira, soupirer de joie. Alors donc on voit là le passage d'un registre à l'autre, qui comme vous disiez tout à l'heure, Madame, vous mettez entre deux chaises ou plutôt entre deux hommes.
Disons que ce sont les derniers instants de lutte. Elle est très 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 près de céder, en regrettant tout de même que l'autre ne soit pas là pour la retenir. C'est peut-être quelque chose comme ça. Hein.
Oui.
en déchargeant.
Non. Elle s'adresse à l'autre quand même. Elle lui dit,
oui,
ta candeur, mon amour, méritait une meilleure école.
Alors exactement.
Mais en attendant,
ta pureté, dit le texte français.
Oui.
Ta pureté, bien aimée, mérite une meilleure récompense. Et bien la récompense, c'est qu'elle va le tromper quand même.
Voilà, exactement.
Oui, c'est ça. Alors
c'est ça la récompense.
C'est dramatique. Elle est vraiment.
La candeur finalement masculine.
Du moins. Ce qu'elle imagine être la candeur.
Oui, mais la candeur masculine, elle y a mis tout.
Si on peut juste dire un mot là-dessus, je veux dire que Proust disait que le plus grand chagrin de son existence, c'était la mort de Lucien de Rubempré. Je ne dirais pas que le plus grand chagrin de mon existence, c'est le retournement de Fiordaligi, mais qu'il y a quand même quelque chose qui fait que ce personnage si extraordinaire, si passionné, qui tout à coup se retourne ou cède, montre à la fois la faiblesse, enfin la faiblesse humaine, a quelque chose d'assez pathétique. Et que, quelle que soit la manière superbe dont chante Elisabeth Schwarzkopf, cette espèce d'agitation intérieure est quelque chose qui, à mon avis, ne passe pas tout à fait. Cette espèce de déséquilibre complet de l'intérieur de cet être qui se retrouve dans une situation qu'elle ne domine pas. Il y a quelque chose là à la fois de beau et de touchant, et qui est tellement bien fait que ce touchant ne nous touche pas. Plus complètement.
Oui.
Enfin,
oui. Les mots prononcés par Fiordaligi sont des mots très forts. Oui, enfin, on a l'impression qu'elle est dans une sorte de folie.
Oui.
Elle dit smania, fano, rimorso, pentimento. Oui. Vous arrivez sur le tradimento.
C'est la crise au sens.
C'est vraiment la manie au sens de la manie.
Elle reparle de sa condition.
Et vous trouvez que Schwarzkopf n'est pas assez folle?
Elle aurait pu faire sentir quelque chose d'un peu plus fou, je crois, de plus habité, de plus possédé par le.
C'est impeccablement.
Quelque chose de plus possédé avec une telle difficulté technique, c'est pratiquement impossible. C'est là. Et c'est là que je regrette justement qu'il n'y ait pas quelque chose, un frissonnement plus grand en dessous à l'accompagnement.
Alors on va entendre donc Rachel Yacar dans cet enregistrement récent. Nous n'aurons pas le temps d'entendre Come Scoglio, le premier. Et nous allons entendre Per Pietà, donc. Je rappelle que c'est Arnold Desman qui dirige l'orchestre du théâtre de Drottningholm.
Un premio è questo, ben dovuto ai miei colpi.
Nous applaudissons Rachel Ayakar, mais elle vient très discrètement de quitter la table pour nous laisser libre de nos propos, évidemment, puis nous l'entendrons dans quelques minutes dans un récital. Alors, c'est donc la version la plus récente d'Arnold Desmann. À votre avis, est-ce qu'on va faire rentrer cette version au Panthéon des grands cosy? Qu'en pensez-vous?
J'espère qu'il n'y a pas de Panthéon, moi, parce que les Panthéons, si vous voulez, ce n'est pas très, très agréable à visiter. Hein. Je ne sais pas si vous en avez visité, mais c'est un peu froid. Et je préfère les choses véritablement brûlantes.
Ça se visite, hein, ça se visite, voilà. Au mois de mai 81, les Panthéons.
Oui, mais écoutez, une rose à la main, tout le monde n'a pas ça, finalement, ça peut.
Écoutez, moi, je crois que c'est une version qui va, comment dirais, en politique, justement, dans le bon sens, dans la mesure où, quand même, ça, on voit très bien que la question de Cosy est toute récente, toute nouvelle, qu'elle commence à peine, que c'est donc déjà une première révision de cette longue affaire de la censure de Cosy, ou des interprétations tronquées de Cosy, ou des interprétations miracles ou éparses de Cosy. Donc, il y a celle-là, déjà, elle fera date un jour, j'espère qu'on en parlera, comme de celle qui a eu lieu à Aix, comme celle de Rosebaud. C'est une des premières versions qui va enfin rendre Mozart compréhensible. Voilà.
Il me reste à remercier nos amis qui ont participé à ce débat sur Cosy fan tutte. Je rappelle qu'étaient réunis autour de la table de Désaccord parfait Peter Watland, directeur artistique de la firme Oiseleur, qui vient donc de publier l'enregistrement récent primé par notre Académie Disque Français, dirigé par Arnold Oestmann. Philippe Solers, écrivain, Dominique Jameux, Stéphane Goldet, Jacques Bourgeois de France Musique, Baptiste Marais, écrivain, Jacques Merlet de France Musique et Rachel Yacard, qui a eu la gentillesse de parler avec nous et qui, dans quelques instants, va nous donner un récital accompagné par Claude Lavoie, consacré à des leaders et des airs de concert de Mozart. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Thank you.